Aujourd'hui, dans les récits de Loire-Atlantique et de Vendée, nous allons évoquer avec Michel-Alexandre Gauthier la catastrophe du Boivre, qui est également d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui vient juste de sortir et dont Michel Gauthier est l'auteur. Le 17 mars 1945, 15 paysans furent tués par des mines allemandes. Et nous allons voir avec vous, Michel Gauthier, ce qui s'est passé exactement ce jour-là et pourquoi ça a laissé un souvenir impérissable, notamment en Brière, dans le Marais, enfin dans la poche, dans ce qui était à l'époque la poche de Saint-Nazaire. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Je sais que vous vous intéressez et tout particulièrement à ce qui s'est passé pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier pendant toute la période où Saint-Nazaire et toute la région de Saint-Nazaire est restée isolée, enfermée dans la poche et où là il s'est passé des choses absolument incroyables dont aujourd'hui certains ont encore le souvenir hein, parce que vous travaillez surtout par témoignage.
Bien sûr, je recueille les témoignages des personnes qui ont vécu cette période. En particulier dans une zone qui m'est plus proche, c'est celle de la zone du Pays de Retz, puisque la poche de Saint-Nazaire comportait deux parties, une partie au nord bien sûr avec tout ce qui était autour de la grande base sous-marine de Saint-Nazaire, mais aussi une partie sud qui était plus limitée, qui comportait 11 communes dans le nord du Pays de Retz, et à l'intérieur de cette zone, eh bien, une zone de marais, le marais du Boivre, qui est le lieu où se déroule ce drame.
Alors, le marais du Boivre, il se situe où exactement, géographiquement?
Alors, il se situe entre Saint-Brévin et Saint-Père-en-Retz. C'est une petite rivière qui se jette dans la mer, dans l'estuaire, à la hauteur de l'Ermitage, et qui prend sa source à Saint-Père-en-Retz, qui fait à peu près 18 km de long, et qui se jette dans la mer à l'Ermitage. Donc, c'est un marais limité, avec un bassin versant qui fait à peu près 5000 hectares, et qui inonde l'hiver environ 400 hectares de marais.
Voilà.
Mais autour de ce marais, bien entendu, beaucoup d'exploitations agricoles.
Alors, un lac aussi, non?
Alors, un lac par les circonstances de la guerre, hein, puisque normalement ce marais est blanc l'hiver, mais l'été il sèche, il devient à ce moment-là un espace de pâture et de foin.
D'accord.
Mais précisément, depuis 1942, les Allemands ont fermé les accès à la mer de tous les marais, étiers et canaux. Donc ce qui fait que ce marais-là devient au fil des hivers un lac. Et cette poche de Saint-Nazaire était en fait la plus peuplée. Il y était enfermé 130 000 habitants, 130 000 civils environ, avec 30 000 soldats allemands. C'était environ le cinquième du département de Loire inférieure à l'époque. Il faut savoir que Nantes était libérée depuis le 12 août 1944, Paris depuis le 25 août, et que dans ces poches de l'Atlantique, alors que le reste du pays se libère, eh bien, on va subir la guerre et l'occupation pendant 9 mois de plus. Et comme vous le dites, cette poche de Saint-Nazaire va être libérée, la dernière de toutes. Hein, la guerre en Europe va s'éteindre effectivement dans cette poche de Saint-Nazaire le 11 mai 1945.
Mais avant cela, eh bien, on aura eu le 17 mars une catastrophe, hein, la catastrophe du Boivre,
oui,
dont vous allez tout au long de ce récit de Loire-Atlantique et de Vendée nous parler. Mais tout de suite, catastrophe du Boivre en Pays de Retz, dans la poche de Saint-Nazaire, un ouvrage signé Michel-Alexandre Gauthier qui est avec moi aujourd'hui. Alors, Michel Gauthier, la catastrophe du Boivre intervient finalement 2 mois avant la libération de la poche de Saint-Nazaire.
Oui, elle intervient exactement 8 semaines avant la libération. Donc ce qui ajoute, si vous voulez, à la portée symbolique de ce drame. Bon, si on peut résumer la catastrophe du Boivre, une explosion accidentelle de mine,
oui,
hein, qui fait 15 morts et 5 blessés, donc à Saint-Brévin, le 17 mars 1945. L'impact psychologique, l'impact symbolique et historique va beaucoup plus loin que ce simple constat de médecine légale. Hein. Cette catastrophe est le résultat d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais c'est surtout le produit d'une situation militaire et économique très perturbée à l'approche des échéances de fin de guerre. La population est épuisée psychologiquement et moralement.
Physiquement aussi, d'ailleurs. Parce qu'ils ont eu très froid, ils ont eu faim.
Voilà, le dernier hiver a été très très rude, oui, et très très froid, il a plu tout le temps. Les réserves alimentaires s'épuisent. On n'a plus d'électricité depuis l'été 44, donc on n'a plus de lumière, on n'a plus de chauffage. On se dispute avec les Allemands pour les dernières bûches. Au milieu de 22 000 civils, il y a 9 000 soldats allemands, c'est-à-dire, ouais, qu'il y a un ventre sur trois à nourrir qui est allemand.
Absolument.
Et ces soldats vivent en général, dans les villages, les cantonnements sont au plus près des civils et on doit partager avec eux le toit et bien souvent les vivres.
Ce sont des hommes jeunes hein, qui vont travailler donc sur le Boivre là et qui vont subir de plein fouet l'explosion de la mine.
Alors, parmi les 15 victimes, il y en a 10 qui ont moins de 25 ans. Il y a un grand-père de 71 ans, il y a aussi un enfant de 13 ans et demi. Il y a 5 pères de famille et d'ailleurs je souhaiterais les nommer pour la mémoire de ces familles. Donc je vais les citer: Pierre Artus, Louis Badeau, Francis Berthebault, Joseph Berthebault, Georges Crépin, Adolphe Fouché, Joseph Gauthier qui était mon oncle, Jean-Marie Ginot, Constant Glot, Léon Guilbeault, François Leduc, Joseph Huéra, Pierre Martin et 2 Eugène Morisseau, qui n'étaient pas de la même famille. Voilà. Et elle s'ajoutait à ces 15 morts, à ces 15 victimes, 3 blessés graves, Gustave Ferré, André Morisseau et Léon Porcher. Gustave Ferré étant le dernier survivant de cette catastrophe, il avait 16 ans à l'époque, il vit toujours, il a été un de mes premiers témoins, il a toujours ses 18 éclats de mine de l'époque dans le corps.
On va voir dans un instant avec vous, Michel-Alexandre Gauthier, ce qui s'est passé exactement ce fameux 17 mars 1945. Alexandre Gauthier, auteur de l'ouvrage La catastrophe du Boivre. Alors, Michel Gauthier, qu'est-ce qui s'est passé ce 17 mars 45 ?
Eh bien, je vais vous expliquer dans le détail ce qui s'est passé le 17 mars 45, mais avant, je souhaiterais partir d'un peu plus loin, peut-être, pour resituer cet événement, bon, qui pourra paraître absurde, hein. On dit c'est un effet du destin, mais le destin, il a souvent des origines lointaines. Donc, je voudrais revenir un peu sur les causes lointaines de ce drame, c'est-à-dire l'opération Chariot sur Saint-Nazaire. Hein, c'est un événement qui a marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'était la première fois que des commandos anglais, environ 600 hommes, aller pénétrer sur les côtes françaises malgré les défenses allemandes. Donc 600 hommes avec un destroyer vont pénétrer dans le port de Saint-Nazaire et faire sauter la porte sud de la forme Joubert, où devait venir se faire radouber par exemple le Tirpitz. Et une des conséquences de ce grand succès militaire, ça va être d'affoler Hitler, qui va envoyer von Rundstedt en tournée d'inspection. On va accélérer la construction du mur de l'Atlantique. Et le mur de l'Atlantique, ce ne sont pas simplement que des défenses en béton et que des blocos. C'est aussi, par exemple, neutraliser des zones inondables. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé au sud de l'estuaire. Pour prévenir tout débarquement aéroporté, on a donc inondé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes ces zones inondables et on a planté des asperges de Rommel ailleurs.
D'accord, mais voilà. C'est pour ça donc que cette zone est devenue un lac.
Absolument. Et donc, comme je vous l'ai dit, au fil des hivers, l'eau monte et donc les terres agricoles se trouvent inondées, non seulement les pâtures, mais même des blés ou des vignes. Les routes elles-mêmes sont inondées. Dans un triangle Saint-Péran-Rey, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Brévin-les-Pins, l'économie est complètement perturbée. On ne passe plus, par exemple, entre Saint-Brévin et Saint-Michel-Chef-Chef sur ce qu'on appelle maintenant la route bleue.
En effet.
Où à l'époque, il y avait eu avant un petit chemin de fer, là, il y avait 1,50 m d'eau.
Oui, en effet.
Au milieu du lac, il y avait 4 mètres d'eau. On ne passait plus entre Saint-Brévin et Saint-Péran-Rey. Et les troupes allemandes elles-mêmes étaient gênées dans leur propre déplacement. Et comme elles savaient qu'elles allaient bientôt devoir affronter une offensive des libérateurs, donc il y a eu des négociations qui se sont instituées entre les paysans représentés par des syndics ou par leur maire et les autorités allemandes. Et le colonel Kasberg, qui commandait la commandanture de Saint-Brévin, a autorisé un chantier qui permettrait de faire baisser le niveau du lac d'un mètre. Pour D'accord. dégager au moins les routes, une partie des terres agricoles.
Ça, c'est une idée des Allemands.
Eh bien, ce chantier est en fait une idée commune
D'accord.
à tous les usagers du marais et des routes.
Hein, puisque ça doit profiter à tout le monde.
Ça gênait tout le monde. Donc, il y a un accord. Le problème, c'est que, contrairement au chantier de réquisition, cette fois-ci, les Allemands demandent aux autorités civiles d'en prendre la responsabilité. Eux fourniront les artificiers. Donc, ce qui se passe, c'est que Le 15 mars 45, des volontaires, et non pas des requis, c'est-à-dire des gens qui sont riverains de ce marais dont les terres sont inondées, donc essentiellement des paysans ou des domestiques agricoles.
En tout cas, des gens directement concernés.
Des gens directement concernés vont donc se rendre à pied d'œuvre avec leur pelle, leur pioche, pour, dans un premier temps, cette fois-ci encadrés par des artificiers allemands, déminer la zone de dunes où on compte creuser une tranchée
pour que l'eau s'écoule,
pour que
dans
l'eau
la
s'écoule
mer.
À la mer.
D'accord.
Et donc les deux premiers jours vont se passer correctement. On va effectivement déminer un couloir de environ 20 mètres de large sur 60 mètres de long.
Je suppose qu'on en a trouvé quelques-unes.
On a trouvé beaucoup de mines, des mines anti-chars. Donc les Allemands font le travail comme ils savent le faire. On quadrille le terrain, on pique avec la baïonnette, on découvre les mines. Les paysans aident à désensabler les mines. Les artificiers allemands enlèvent les détonateurs. Et ensuite, on range les mines proprement. Et donc, le vendredi soir, 16 mars, le chantier est propre. On a dégagé 244 mines anti-chars et on se dit demain matin, on va les enlever avec des charrettes et puis ensuite on va continuer le creusement de la tranchée. Et lundi prochain, on va amener beaucoup de monde. On va même demander aux chômeurs des communes voisines de venir nous aider. Et enfin, on va pouvoir libérer les eaux du bois.
Donc on avait bon espoir que tout cela finisse assez vite, en quelques jours.
En quelques jours, on n'allait pas vider le marais, mais on allait faire baisser sérieusement son niveau. Et donc on va sur ce chantier avec une certaine effervescence, il y a une certaine joie, on touche à la libération et en plus on a le plaisir de réhabiliter déjà une partie de cette terre, même sous occupation.
Alors ils sont combien à bosser sur le chantier?
Alors ils sont combien? Ben, les premiers jours ils sont environ une centaine. Et ce matin-là, eh bien le problème c'est qu'il y a fort peu d'encadrement, il n'y a pas de rôle d'inscription, ce matin-là il y a à peu près une vingtaine d'hommes d'arrivée.
Catastrophe du Boivre, intervenue le 17 mars 1945, une catastrophe qui a tué plusieurs paysans, et dont vous nous parlez aujourd'hui, Michel-Alexandre Gauthier. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de La Catastrophe du Boivre, un ouvrage de référence donc sur cet événement assez peu connu, connu surtout en Pays de Ré.
Bien sûr, c'est un événement qui a traumatisé le Pays de Ré, puisqu'il intervenait à quelques semaines de la libération.
Alors, vous nous racontiez tout à l'heure que le 16 au soir, le chantier était propre, déminé,
oui.
Prêt,
oui.
Pour que les paysans, les hommes qui étaient sur le chantier, eh bien, puissent enfin creuser la dune et libérer donc le Boivre d'un mètre d'eau. Mmh.
Voilà. Donc, on avait déjà commencé d'ailleurs cette tranchée. Hein. Et donc, le 17 mars 1945, vers 9h du matin, une vingtaine d'hommes sont déjà à pied d'œuvre. Arrivent les premiers, disons, les plus proches du chantier, ceux qui arrivent aussi en vélo. D'autres sont encore en route. On vient avec des charrettes. On se rassemble par village, parfois 4, 5, 6 par charrette. Et donc, on attend une centaine d'hommes sur place. Donc, on est en train d'étaler les attelages sous les sapins. Et sur le chantier sont donc là les premiers arrivés qui constatent que sur le bord de la tranchée, il y a une mine qui, dit-on, n'était pas là la veille. Alors, on s'approche, méfiant, un tonnelier du coin, Jean-Marie Clavier, dit « Elle a une drôle de mine, cette mine-là. »
Elle ne ressemble pas aux autres ?
Effectivement, c'est une mine anti-char, mais elle n'est pas souillée comme les autres. On n'a pas l'impression qu'elle sort du sable comme les autres. Il semble bien aussi qu'elle est encore son détonateur. Alors, on essaye de faire ce qu'on a vu faire aux Allemands la veille, c'est-à-dire d'enlever ce détonateur. Apparemment, on n'y parvient pas. Mais on n'est pas plus méfiant que ça, parce que ces mines anti-chars, elles étaient réglées pour exploser sous le passage d'un char, ou d'un convoi, ou d'une vache.
Hein. En tout cas, de véhicules lourds.
600 kilos de pression. Bon, donc on se dit, il n'y a pas de risque, on la met dans une pelle, et on la jette sur le tas. On imagine les conséquences, elle explose et elle enchaîne l'explosion de toutes les autres mines, donc 244 mines anti-chars. C'est un vacarme épouvantable qui remue la dune et tous les gens qui l'occupent, qui sont projetés, qui sont ensevelis. Un gros nuage de fumée s'étale au-dessus du lac. Sans doute, beaucoup d'hommes sont tués sur le coup, déchiquetés, mais d'autres vont mourir d'asphyxie. Ils crient, mais on n'ose pas s'approcher. Les copains qui sont à proximité du chantier sont terrorisés. On s'approche peu à peu. Les Allemands eux-mêmes sortent de leur cantonnement et s'approchent. Il y a un climat assez tendu entre les Allemands et les Français. Les Allemands disant « ces Français sont des imbéciles, ils n'ont pas su respecter les consignes de sécurité ». Les Français disant « bien entendu, si ça explosait, c'est que les Allemands avaient posé des mines ». Donc voilà. Et donc peu à peu, les secours s'organisent et on extrait de la dune. Eh bien, des cadavres qu'on va emmener sur des charrettes, à même les charrettes, à la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, qui va être transformée en chapelle ardente.
15 tués, hein.
Alors, 15 tués, mais pas tous tués sur le coup. Hein. Il y a beaucoup de blessés très graves qui vont expirer peu à peu ou qui vont être transférés avec d'autres blessés vers le pavillon des fleurs, qui est une espèce de lazaret allemand à Saint-Brévin, où là, on va apporter les premiers secours. Certains vont être transférés à l'hôpital de la Baule, qui est l'hôpital allemand pendant la poche, et ils vont mourir dans les jours qui vont suivre. Et donc, au total, effectivement, nous aurons 15 tués. Et
3. Alors, avec toutes ces explosions, Michel-Alexandre Gauthier, on aurait pu craindre beaucoup plus de victimes.
Eh bien, écoutez, si la catastrophe avait eu lieu, disons, une demi-heure après, oui. c'est pas 15 morts qu'on aurait relevé, c'est vraisemblablement 100.
D'accord. Hein.
Et bien entendu, la chose aurait pu être beaucoup plus grave.
Alors, vous avez rencontré des témoins, hein, des gens qui étaient là, ce jour-là.
Écoutez, oui, j'ai rencontré d'abord ce dernier survivant, Gustave Ferré, hein, qui avait 16 ans à l'époque. Qui m'avait fait cette réflexion un jour où j'étais en dédicace d'un livre antérieur qui s'appelait Une guerre de 7 ans, où je racontais la guerre et la captivité de mon père. Et à la fin de ces pages, j'évoquais en un paragraphe la catastrophe du Boivre. Parce que quand il était revenu de captivité, c'était pour apprendre la mort de son frère à l'occasion de cette catastrophe. Et Gustave m'avait dit, tu parles du Boivre dans ton bouquin, mais pas assez. Mais je lui ai dit, Gustave, je veux bien en parler plus, mais il faudra m'aider. Et donc, effectivement, j'ai rencontré toutes les familles, les enfants ou les frères et sœurs de ces victimes, leurs voisins et leurs amis de l'époque, pour pouvoir reconstituer les dernières semaines, les derniers jours, voire les dernières heures de toutes ces victimes, une par une.
Alors, il y a un mémorial.
Alors oui, effectivement, il y avait déjà une stèle en granit qui avait été édifiée en 1955, soit 10 ans après la catastrophe, pour rappeler le souvenir de ce drame. Cette stèle portait les noms de toutes les victimes. Mais vous savez, bon, le souvenir peu à peu s'étiole. Bon, les cérémonies devenaient plus irrégulières pendant la dernière période. Et puis, lorsque ce livre est sorti, effectivement, ça a réveillé les mémoires. Hein. On a, pour la première fois, reconstitué l'ensemble des circonstances qui ont mené à ce drame. Et donc, on a constitué un comité pour le souvenir de la catastrophe du Boivre, avec les familles, les amis, etc., de toutes ces victimes. Et donc, il y a 2 ans, on a édifié un mémorial sous forme de panneaux qui restitue l'événement dans son contexte historique, c'est-à-dire on rappelle dans ces panneaux ce qu'a été la poche de Saint-Nazaire, en particulier la poche sud de Saint-Nazaire, qui rappelle les conditions de vie des populations, et puis qui raconte cette catastrophe, et qui porte surtout les portraits de chacune des victimes.
Récit de Laure Atlantique et de Vendée.
Merci hein, Michel-Alexandre Gauthier d'avoir accepté de venir nous raconter cette histoire dans Récits de Loire-Atlantique et de Vendée, la catastrophe du Boivre. Ça c'est le titre de votre ouvrage que je recommande à toutes celles et ceux qui s'intéressent à cette période de la Deuxième Guerre mondiale dans notre région qui a eu donc des accents particuliers et puis cette catastrophe qui a vu périr 15 hommes pour la plupart jeunes, hein, très jeunes même, hein, le 17 mars 1945. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis à bientôt sur France Bleu Loire-Océan.
Merci beaucoup.